Radio Okapi. Le journal avec Pascal Masereka Bissimwa. Avant de vous dérouler ce journal, d'abord les titres. Poursuite à Mbandaka pour la deuxième journée consécutive du séjour du Premier ministre. Jean-Michel Samalukonde Kienge prépare à l'arrivée du président Félix Tshisekedi à la conférence des gouverneurs prévue dans cette ville. Six détenus sont morts à la prison de Matadi dans le Congo central en l'espace d'une semaine suite aux mauvaises conditions carcérales selon des sources concordantes. Le directeur adjoint de la prison parle plutôt des trois détenus qui souffraient de la tuberculose. Notre invité, c'est le chef de bureau du PAM pour le Sud Kivu et le Maniema. Francis Alain Béret parle du programme d'alimentation scolaire avec le volet éducation à la nutrition à Sangé dans le territoire d'Uvira au Sud Kivu. Madame, messieurs, bonsoir. Politique pour commencer votre journal. Le Premier ministre poursuit son séjour à Mbandaka où il est arrivé hier. Jean-Michel Samalukonde Kienge est venu préparer l'arrivée du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Équateur où se tiendra prochainement la conférence des gouverneurs. Et parmi les actions à mener, le Premier ministre a promis de restaurer l'agriculture dans la région afin qu'elle redevienne le grenier du pays. Pour en parler, retrouvons à Mbandaka Paul-Richard Malenga.
Ce dimanche dans la matinée, le Premier ministre Samalukonde a effectué un aller-retour à Bokoté sur la rivière Busira via Boende dans la Tchopa. Il s'est accompagné d'une forte délégation dont des membres de son gouvernement, des gouverneurs du Grand Équateur ainsi que l'archevêque et le clergé de Mbandaka Bikoro. Cette visite éclair a servi au lancement des travaux d'érection du sanctuaire en mémoire du bien-aimé Isidore Bakanja, un jeune catholique originaire de Bokoté mais qui a été flagellé à mort par un colon belge pour sa dévotion mariale. La construction du sanctuaire sera exécutée notamment par le ministre d'État à l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo, qui est en même temps président de la Fondation Widal. Cet apport du gouvernement congolais vise notamment à valoriser les martyrs de foi congolaises, dont la sœur Anwarite et Isidore Bakanja. C'est à l'occasion de la prochaine visite du pape François en RDC, a indiqué le Premier ministre. Celui-ci a regagné Mbandaka dans la soirée, après un meeting populaire à Boende, chef-lieu de la Tchopa. Notons que samedi soir à Mbandaka, Jean-Michel Samalukonde a présidé un comité provincial élargi de sécurité et le conseil des ministres. Il a aussi accordé une audience à la notabilité locale. Mbandaka, Paul-Richard Malenga, la Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, en Ituri, deux personnes dont un chauffeur de camion-citerne ont été prises en otage par les miliciens de la CODECO lors d'une double attaque survenue samedi après-midi au village de Matete et Ndounoua sur la nationale numéro 27. Les usagers de la route déplorent la montée des violences avec comme conséquence la réduction du trafic. Ils demandent par conséquent au FRDC de traquer ces inciviques. Explication à Bounia, Dizakrem.
Au moins 5 camps d'incursion des CODECO sont enregistrés depuis vendredi dernier dans certaines entités en territoire de Djougou. Selon des sources de sécurité, un chauffeur a été enlevé de son camion-citerne vers Gina sur la RN27 et amené en brousse où il a été tué samedi. Ils ont également emporté plusieurs biens et de l'argent. Le trafic a été suspendu pendant plusieurs heures avant de reprendre dans la soirée. Le même jour, un autre groupe de ces assaillants a attaqué la localité de Matete. Ils ont pris en otage 5 personnes qui ont été acheminées dans leur bastion à Bessé. La société civile s'inquiète de leur sort si elles sont vivantes ou mortes. Ces hommes armés ont pillé plusieurs boutiques dans cette localité de Matete. Un cultivateur a été également tué dans ce champ le même jour à Deyo. Selon certains conducteurs, ces violences affectent gravement le trafic sur la route nationale et même des dessertes agricoles. L'armée doit réduire la capacité des nuisances de ces miliciens en lançant des opérations musclées qui est de riposter chaque fois après les attaques de ces hors-la-loi, ajoute-t-il. Nous n'avons pas encore la réaction des FARDC. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, une vingtaine de personnes tuées, c'est le bilan d'une nouvelle attaque de présumés rebelles ougandais de l'ADF dans la nuit de vendredi à samedi à Mamboumé-Mboumé dans les territoires de Beni. La société civile locale affirme que plusieurs habitants du village voisin de Mamové sont introuvables. Reportage à Beni d'André Kitenge.
Le président de la société civile de Mamové rapporte que c'est vers 21h heure locale que les assaillants ont fait incursion dans le village de Mamboumé. Le premier bilan fait état de 27 civils tués, pour la plupart à l'armée blanche. Les présumés ADF auraient d'abord tué 10 civils dans les villages de Moutoui et Makakwa avant de terminer leur opération à Mamboumé où ils ont tué 17 autres civils, précise le président de la société civile de Mamové. Kinos Katuo parlait également des dégâts matériels enregistrés lors de cette attaque meurtrière.
Pour le moment, nous avons un bilan de 27 personnes tuées, plusieurs maisons incendiées et des motos aussi incendiées, plusieurs personnes portées disparues. L'ennemi s'est divisé en trois parties. Une autre partie s'est orientée vers Karalangwe, tout près de la rivière Mutu et tout près de la rivière Samboko, où on a enregistré aussi 5 personnes tuées. Et une autre partie de l'ennemi a pris la direction de Makakwa, tout près du village Mandimo, à Diago. On a avec l'agglomération de Mamové de Mangazi.
Contacté, l'armée ne confirme pas encore cette attaque. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalouchaï, promet de se prononcer après avoir réuni toutes les informations auprès des services spécialisés. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le Congo central où des sources concordantes parlaient du décès de 6 détenus à la prison centrale de Matadi en l'espace d'une semaine suite aux mauvaises conditions carcérales. Les mêmes sources affirment que ces bilans pourraient s'alourdir. Le directeur adjoint de la prison parle de la mort de 3 détenus qui souffraient de la tuberculose. Radio Okapi Matadi, Nana Plurish Mambou.
À en croire plusieurs sources qui fréquentent la prison centrale de Matadi, ces 6 pensionnaires décédés cette semaine qui s'achèvent avaient les os sur la peau. Ces mêmes sources affirment que cette situation est consécutive aux mauvaises conditions d'hébergement et à l'insuffisance alimentaire, car dans ces centres pénitentiaires, les détenus n'ont droit qu'à un seul repas la journée. Apollon Nyalongo, directrice adjointe de la prison centrale de Matadi que nous avons contactée, indique quant à elle qu'il ne s'agit plutôt que des 3 décès. Ces 3 personnes décédées sont parmi ceux souffrant de la tuberculose dont le dépistage a été tardif. Ces malades, une fois dépistés, négligeaient les traitements, a-t-elle ajouté. La directrice adjointe de ces centres pénitentiaires reconnaît par ailleurs que l'insuffisance alimentaire fait aussi partie des causes de ces décès. Selon elle, la subvention de 29 millions que le gouvernement congolais leur octroie chaque trimestre ne leur permet pas d'offrir des repas la journée à plus de 700 pensionnaires que compte cette prison de Matadi. Il y a aussi la prise en charge médicale des détenus ainsi que les frais de fonctionnement de la prison et sans oublier les créances des fournisseurs héritées de l'ancienne direction de cette maison carcérale. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Justice encore au Maniema, les femmes agents de l'Office congolais de contrôle plaident pour l'amélioration des conditions carcérales des détenus femmes à la prison de Kindu. Cette requête a été formulée vendredi après-midi lors de la remise des vivres et des non-vivres aux détenus femmes. Des précisions avec Julie Bahati, agent de l'OCC Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
L'état des lieux où se trouvent des femmes, c'est impropre. Il faut que le gouvernement y pense pour les aider. À ce qui concerne les thèmes de l'année, c'est sur l'environnement. Vraiment, nous devons faire quelque chose pour réaménager ou bien entretenir la place là où se trouve la femme. Dans le cadre du mois de la femme, nous sommes dit, nous les mamans OCC, nous ne pouvons pas être dans nos bureaux pour ne plus faire un petit geste à nos mamans qui se trouvent dans les prisons pour les réconforter et les donner encore l'espoir. Mais nous avons pensé quand même à amener de la farine du maïs, de l'huile, les haricots et d'autres comme les conforts, les papiers hygiéniques. Parce qu'ils se sentent un peu délaissés, ils se sentent un peu abandonnés.
La nouvelle est confirmée par le directeur de la prison de Kindu, Paul Ilunga, reconnaît que les conditions carcérales des détenus à cette prison méritent l'attention des autorités locales. Revenons maintenant au mois de la femme. La division du genre famille et enfants du Haut-Katanga a mobilisé les femmes de plusieurs structures de la ville de Lubumbashi contre les changements climatiques. Vendredi dernier, elles ont planté des arbres sur divers sites, dont celui de captage d'eau de la régie des eaux, déjà spolié sur plusieurs hectares. À Lubumbashi, la correspondance de Jean Gandou.
Le premier site choisi était la gare de la SNCC. La ministre provinciale de l'économie a expliqué à l'assistance l'importance de l'arbre avant que quelques plantules ne soient mises en terre. Le deuxième était le centre de pompage de la régie des eaux Kassapa dans la commune annexe. Pour la circonstance, l'entreprise minière MMG Kintsevere a disponibilisé des milliers de plantes qu'elle a mises à la disposition des femmes présentes à cette manifestation. Inès Mandé de MMG Kintsevere pense que ce geste peut sauver le monde.
Et là, c'est une alerte qui démontre à quel point la planète est malade. Et nous, en tant qu'entreprise minière, notre contribution, c'est juste planter un arbre. Si chacun s'y mettait, on pourra sauver la planète.
Dans la foulée, le ACR, à travers son partenaire ADS, Association pour le développement et la sauvegarde de l'environnement, a conduit les femmes réfugiées qui ne se sont pas aussi empêchées de poser le même geste.
Je m'appelle Maniram Bona à Lima, Lauriane. Je suis réfugiée burundaise. Nous sommes dans le mois de la femme et le thème national nous demande de protéger l'environnement. On a décidé de planter des arbres. Car les arbres apportent l'oxygène.
À noter que la régie des eaux a salué l'acte posé par les femmes de Lubumbashi, car le site a été déboisé à plus de 80% par ceux qui l'ont spolié. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
La suite du journal sur Radio Okapi dans les Kwilu, une dizaine de ménages sont en ce moment sans abri et d'autres sont reçus dans des familles d'accueil. C'est suite à la destruction de leur maison par la pluie diluvienne qui s'est abattue hier soir sur la ville de Kikwit. Le maire de la ville sollicite l'intervention des autorités à tous les niveaux pour assister les sinistrés. Léonard Moutangou a été joint par Irène Boma.
En ville Bafla, avenue du Commerce, il y a des maisons qui se sont écroulées, une bonne dizaine de maisons. Les gens sont sans abri, ils ont passé la nuit à la belle étoile, quelques-uns hébergés par les voisins. J'ai envoyé les services sociaux de la ville qui sont des familles là, j'attends le rapport. Mais il y a une dizaine de familles qui sont sans abri. Ce sont des maisons semi-durables qui ont été complètement détruites par la pluie. C'est un torrent terrible, même les routes sont abîmées et tout ça. Du côté humain, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine. En tout cas, les routes sont défoncées. Comme demain, c'est lundi. On aura d'autres rapports de tout le quartier. Sûrement, il doit y avoir d'autres dégâts dans des quartiers là un peu reculés. J'en appelle au gouvernement provincial et surtout au gouvernement central pour une fois qu'on nous écoute, qu'on nous assiste à Kikwit. Il y a beaucoup de sinistres qu'on connaît souvent à Kikwit à travers des années, mais nous n'avons presque jamais eu des assistances consistantes. Cette fois, que la population serait juste, ne fût-ce qu'une fois. Ils soient consolés, quoi, les sinistres.
Autre nouvelle, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique appelle la presse congolaise à accompagner la première conférence internationale sur la gestion des volcans de Virunga, appel lancé ce dimanche à Kinshasa. José Mpanda indique que ces assises qui se tiendront à Goma du 19 au 21 mars réuniront autour de la table des chercheurs nationaux et internationaux en volcanologie et en disciplines connexes. Il est au micro de Paul Matendo.
J'appelle l'accompagnement de la presse congolaise pour que les scientifiques congolais, les expatriés qui viendront comme chercheurs, soient suivis à travers le monde, puisqu'il n'y a pas seulement les côtés négatifs du volcan, mais il y a aussi les côtés recherche. La dite conférence aura pour mérite de réunir autour d'une tribune scientifique des chercheurs et experts nationaux et internationaux en volcanologie et en disciplines connexes. Envie de mutualiser les échanges scientifiques et déboucher sur des stratégies et méthodologies idoines devant augmenter les capacités de surveillance de l'OVG. En même temps, il sera statué sur l'accompagnement de l'OVG par les différents partenaires scientifiques, techniques et financiers, ainsi que sur les plans de contingence qui aura anticipé la gestion des risques volcaniques.
Actualité internationale.
Au 18e jour ce dimanche de l'invasion de l'Ukraine, Kiev, la capitale du pays, se prépare à livrer bataille tandis que la ville de Mariupol entend l'arrivée d'un convoi humanitaire. Jusque-là, relativement épargné, des bombardements ont frappé l'ouest du pays, non loin de la frontière avec la Pologne. Et puis un journaliste américain a été tué et un autre reporter grièvement blessé par balle ce dimanche après-midi au nord-ouest de la ville de Kiev, où les forces ukrainiennes combattent les forces russe. Selon l'AFP, l'agence France-Presse, les deux hommes ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien qui a également été blessé.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau du programme alimentaire mondial PAM pour le Sud Kivu et le Maniema. Francis Alain Béret parlait du lancement du programme d'alimentation scolaire avec le volet éducation à la nutrition à Sangué dans le territoire d'Ouvira au Sud Kivu. Il s'entretient avec Fiston Goumamayabala.
Francis Béret, bonjour. Vous êtes chef de bureau du programme alimentaire mondial basé à Bukavu pour le Sud Kivu et le Maniema. 19 000 écoliers des 53 écoles primaires de la zone de santé de la Ruzizi sont touchés directement par ce projet de cantine scolaire. Comment fonctionnent ces programmes d'alimentation dans la Ruzizi?
Comme vous le savez, le PAM est une agence du système des Nations Unies. Et nous avons pour mandat de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Et notre principe est de sauver des vies et de changer des vies. Quand on prend ce cadre-là, vous comprenez que si nous voulons changer des vies, il va falloir, dans le contexte africain, dans le contexte de la RDC, procéder à l'éducation. Nous avons constaté que la femme en milieu rural est généralement une personne travailleuse avec beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas les connaissances et la capacité nécessaires pour pouvoir être un élément dans le moteur du développement des zones. Et pour l'amener à ce niveau, il y a la nécessité qu'elle soit formée, éduquée, alphabétisée. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet de la résilience financé par les Allemands, nous avons initié cette activité d'alphabétisation pour pouvoir accompagner les femmes productrices à pouvoir apprendre des connaissances, de nouvelles techniques agricoles et être capables de gérer de petites affaires.
Alors, au niveau des cantines scolaires, ça fonctionne comment? Est-ce que vous achetez de la nourriture pour donner aux enfants ou bien vous achetez la production locale pour nourrir les enfants dans les écoles?
De manière générale, nous ne procédons pas les deux. Il y a des écoles du type classique du PAM où nous achetons sur le marché local ou sur le marché international pour alimenter en fait les élèves. Mais de plus en plus, compte tenu du fait que nous appuyons aussi les petits producteurs à augmenter leur capacité de produire, le surplus créé crée une opportunité d'achat par le PAM pour alimenter en fait, les écoles où nous mettons en place l'alimentation en fait, scolaire. Et nous les encourageons aussi à produire en qualité et à diversifier pour pouvoir avoir des aliments et beaucoup plus riches que les enfants pourront manger au niveau des écoles.
Alors, à cette étape ici, il n'y a pas encore de grandes productions agricoles dans la plaine de la Ruzizi à cause de la sécheresse. Comment vous comptez vous comporter pour nourrir les écoliers dans les écoles?
Exact. Et la production, elle existe déjà, sauf qu'elle n'est pas déjà à l'échelle, c'est-à-dire que ce n'est pas déjà une grande quantité. Mais nous poursuivons les efforts avec la FAO et l'UNICEF pour augmenter les capacités de production et produire plus. Maintenant, qu'est-ce que nous ne faisons dans l'entretemps? Comme vous le savez, nous avons des ressources alimentaires que les pays donateurs nous donnent. Nous mettons à contribution ces ressources alimentaires-là pour faire fonctionner les cantines. Mais ça, c'est une stratégie de transition. Très bientôt, quand la production sera à un certain niveau, au niveau des petits producteurs, le PAM pourra acheter directement au niveau des petits producteurs pour alimenter en fait, les écoles. Le bénéfice dans ça, en fait, il est plusieurs. Il y a le fait que le petit producteur, il voit ses capacités renforcées, il produit pour sa consommation et le surplus est orienté vers le marché. Un des bénéfices est que les élèves qui sont dans ces écoles ne sont que les enfants de ces producteurs. Donc du coup, eux aussi, ils ont à manger dans les écoles avec des produits locaux qui répondent à leurs habitudes en fait, alimentaires. D'accord. Et ça constitue aussi un gain économique parce qu'un enfant qui mange à l'école, ça constitue une charge à moins au niveau en fait, des ménages. Ce n'est pas la première fois que le PAM développe un programme de cantine scolaire à l'est du Congo et précisément au Sud Kivu. C'est des programmes qui existaient avant. Maintenant, ce que nous venons de commencer, c'est une nouvelle formule de cantine scolaire que nous appelons alimentation scolaire basée sur les produits locaux. Et je voudrais bien qu'on comprenne cela parce que, à terme, ce ne sera plus des produits achetés ou bien importés, ça serait des produits produits localement par les comités des parents d'élèves et qui seront achetés pour pouvoir alimenter la cantine scolaire. Et pour le plus long terme, le PAM et ses partenaires comptent se désengager et faire en sorte que cette production et le lien qu'il y a avec l'école soient développés et soient soutenus par la communauté même et voire avec une implication des services étatiques.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de bureau du programme alimentaire mondial PAM pour le Sud Kivu et le Maniema. Francis Alain Béret parlait du lancement du programme d'alimentation scolaire avec le volet éducation à la nutrition à Sangué dans le territoire d'Ouvira. Il s'entretenait avec Fiston Goma Mayabala. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Alouzi du Kabambi et Pierrot Elameji qui l'ont préparé. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net. Maintenant, il est 18h20.